Chapitre 24. Tout le monde se moquait de ceux qui partaient à l'étranger pour nettoyer les toilettes. Obinze accueillit donc son premier job avec humour. Il était bel et bien à l'étranger, un seau à la main, ganté de caoutchouc, en train de nettoyer les toilettes des bureaux d'un agent immobilier au deuxième étage d'un immeuble londonien. Chaque fois qu'il ouvrait la porte battante d'une cabine, elle semblait soupirer. La très belle femme noire qui nettoyait les toilettes des femmes était ghanéenne, à peu près de son âge, avec la peau la plus brillante qu'il ait jamais vue. Il devina, à la façon dont elle parlait et se comportait, un passé semblable au sien, une enfance protégée, des repas réguliers, des rêves où le nettoyage des toilettes à Londres n'avait pas sa place. Elle ignorait ses gestes amicaux, lui adressait un bonsoir, aussi formel que possible, mais se montrait amicale avec la femme blanche qui faisait le ménage dans les bureaux à l'étage, et il les vit un jour attablés dans la cafétéria déserte, devant un thé, conversant à voix basse. Il les observa pendant un moment, envahi par une énorme frustration. Ce n'était pas qu'elle refusait de se lier d'amitié, elle ne voulait simplement pas de la sienne. L'amitié dans leur cas lui paraissait peut-être impossible parce qu'elle était ghanéenne et que lui, nigérian, était trop proche d'elle. Il savait qui elle était, alors qu'avec la polonaise, elle pouvait se réinventer et être celle qu'elle désirait être. Les toilettes n'étaient pas épouvantables. Un peu d'urine hors de l'urinoir, quelques chasses non tirées. Son travail était beaucoup plus facile que celui des agents d'entretien des toilettes du campus de Ntsuka, avec les couches de merde étalées sur les murs à la vue desquelles il s'était toujours demandé pourquoi quelqu'un se donnait tant de mal. Aussi fut-il choqué un soir d'entrer dans une cabine et de découvrir un tas de merde sur le couvercle du siège, durci, pointu, centré comme s'il avait été soigneusement déposé à un endroit bien calculé. On eût dit un petit chien pelotonné sur son tapis. C'était une mise en scène. Il pensa au refoulement bien connu des Anglais. La femme de son cousin, Odiugo, avait dit un jour « Les Anglais peuvent vivre à côté de toi pendant des années, mais ils ne te diront jamais bonjour. C'est comme s'ils se boutonnaient jusqu'au cou. » Il y avait dans cette mise en scène quelque chose qui ressemblait à une envie de se déboutonner. Un employé mis à la porte, privé d'une promotion. Obinze resta en contemplation devant ce tas de merde, se recroquevillant de plus en plus jusqu'à le considérer comme un affront personnel, un direct à la mâchoire. Et tout ça pour 3 livres de l'heure. Il retira ses gants, les déposa près du tas de merde et sortit de l'immeuble. Ce soir-là, il reçut un email d'Ifemelu. « Ciel, je ne sais même pas par où commencer. Je suis tombée par hasard sur Kayode aujourd'hui au centre commercial. Dire que je regrette mon silence paraît stupide, même à moi, mais je le regrette et je me sens complètement stupide. Je te raconterai tout ce qui est arrivé. Tu m'as manqué et tu me manques. » Il fixa longuement l'email. C'était ce qu'il attendait depuis si longtemps, avoir de ses nouvelles. Quand elle avait cessé de lui écrire, il s'était inquiété pendant de longues semaines d'insomnie, errant dans la maison au milieu de la nuit, se demandant ce qui lui était arrivé. Ils ne s'étaient pas disputés. Leur amour était aussi vif que jamais, leur projet d'avenir inchangé, et soudain le silence. Un silence brutal, total. Il avait appelé, appelé et rappelé jusqu'à ce qu'elle change son numéro de téléphone. Il avait envoyé des emails, contacté sa mère, tante Uju, Ginika. Le ton de Ginika, quand elle avait dit « Ifem a besoin d'un peu de temps, je crois qu'elle est déprimée », lui avait fait l'effet d'une douche froide. Ifemelu n'était pas devenue invalide ou aveugle à la suite d'un accident. Elle ne souffrait pas d'une amnésie subite. Elle avait gardé le contact avec des gens comme Ginika et d'autres, mais pas avec lui. Elle ne voulait pas garder le contact avec lui. Il lui écrivit des emails, demandant qu'au moins elle lui explique pourquoi, ce qui était arrivé. Bientôt, ses emails lui revinrent. Elle avait fermé sa boîte, adresse inconnue. Elle lui manquait, un manque qui le tenaillait au plus profond de lui. Il lui en voulait. Il se demandait encore et encore ce qui s'était passé. Il changea, se replia sur lui-même. Il était tour à tour fou de rage ou plongé dans le désarroi, le cœur desséché de tristesse. Et elle lui écrivait aujourd'hui. Son ton était le même, comme si elle ne lui avait rien fait, comme si elle ne l'avait pas laissé agoniser pendant plus de 5 ans. Pourquoi lui écrivait-elle maintenant? Et lui, que pouvait-il lui dire? Qu'il nettoyait des toilettes et s'était aujourd'hui même trouvé face à une spirale de merde? Comment savait-elle qu'il était encore en vie? Il aurait pu mourir pendant tout ce temps et elle ne l'aurait pas su. Un sentiment furieux de trahison le submergea. Il cliqua sur « Effacer » et « Corbeille ». Son cousin Nicolas avait la mâchoire carrée d'un bulldog et parvenait néanmoins à être très séduisant, sans doute pas à cause de ses traits mais de son aura, de sa haute stature, de ses épaules larges, de ses grandes enjambées masculines. Anne Souka, il avait été l'étudiant le plus populaire du campus. Sa vieille coccinelle, cabossée, garée devant un bar à bière, conférait immédiatement un intérêt particulier aux buveurs qui se trouvaient là. Il était de notoriété publique que deux nanas de la bande des Big Chicks s'étaient battues pour lui au Bello Hostel, jusqu'à s'arracher leur chemisier, mais il était resté obstinément solitaire jusqu'à sa rencontre avec Ojiugo. C'était l'étudiante préférée de la mère d'Obinze, la seule capable d'être assistante de recherche, et elle s'était arrêtée chez eux un dimanche pour discuter d'un livre. Nicolas passait aussi par là, un rituel hebdomadaire pour manger le riz du dimanche. Ojiugo avait du rouge à lèvres orange, un jean déchiré, s'exprimait sans détour et fumait en public, ce qui lui valait les remarques perfides et l'animosité des autres filles, non parce qu'elles se comportaient ainsi, mais parce qu'elle l'osait sans avoir vécu dans un autre pays ni avoir un parent étranger. Caractéristique qui aurait excusé son absence de conformisme. Obinze se souvenait de l'indifférence qu'elle avait montrée envers Nicolas au début. L'ignorant, alors que lui, peu habitué au dédain d'une fille, parlait de plus en plus fort. Mais au bout du compte, ils étaient partis dans sa Volkswagen. Et ils parcouraient le campus à toute vitesse dans cette même Volkswagen. Ojiugo au volant, Nicolas passant le bras par la fenêtre, musique à tue-tête, virage sur les chapeaux de roue, embarquant un jour un ami dans le coffre ouvert. Ils fumaient et buvaient en public. Ils étaient des stars. Un jour, on les vit dans un bar à bière, Ojiugo vêtu d'une seule grande chemise blanche appartenant à Nicolas, lui sans rien d'autre qu'un jean. Les temps sont difficiles, aussi partageons-nous une seule tenue. Dirent-ils nonchalamment à leurs amis. Que Nicolas ait perdu la démesure de sa jeunesse ne surprit pas Obinze. L'étonnant pour lui était qu'il n'en ait pas gardé le moindre souvenir. Marié, père de famille, propriétaire d'une maison en Angleterre, Nicolas s'exprimait avec une sobriété tellement austère qu'elle en était presque comique. « Si tu arrives en Angleterre avec un visa qui ne t'autorise pas à travailler, lui dit-il, la première chose à rechercher n'est ni de quoi manger ou boire, mais un numéro de la National Insurance qui te permette de travailler. Prends tous les jobs qui s'offrent à toi. Ne dépense rien. Épouse une ressortissante de l'Union européenne et obtiens tes papiers. Alors ta vie pourra commencer. » Nicolas parut penser qu'il avait apporté sa contribution, prononcé des paroles de sagesse, et dans les mois qui suivirent, il donna à peine signe de vie à Obinze. On eût dit qu'il n'était plus le grand cousin qui lui avait offert, à l'âge de 15 ans, sa première cigarette, qui avait tracé des schémas sur un morceau de papier pour montrer à Obinze ce qu'il fallait faire quand on mettait ses doigts entre les jambes d'une fille. Le week-end, il déambulait dans la maison, enveloppé de silence, couvant ses soucis. Ce n'était que lors des matchs d'Arsenal qu'il se détendait, une canette de Stella à la main, en compagnie d'Ojiugo et de ses enfants, Na et Ne, criant « Allez, Arsenal !» Après le match, son visage se figeait à nouveau. Il rentrait du bureau, embrassait Ojiugo et les enfants et demandait « Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait, vous tous ?» Ojiugo énumérait toutes leurs activités, violoncelle, piano, violon, devoir, kumon. Ne fait des progrès en déchiffrage, ajoutait-elle, ou Na ne s'est pas appliquée en kumon et a eu deux mauvaises réponses. Nicolas félicitait ou réprimandait chaque enfant. Na, avec sa mâchoire carrée de bulldog, et Né, qui avait hérité le beau visage large de sa mère. Il leur parlait exclusivement en anglais, un anglais soigné, comme s'il craignait que l'igbo qu'il utilisait avec leur mère les contamine et leur fasse perdre leur précieux accent anglais. Puis il disait « Odiugo, bravo, j'ai faim. » « Oui, Nicolas. » Elle lui servait son dîner sur un plateau dans son bureau ou devant la télévision de la cuisine. Obinze se demandait parfois si elle se penchait respectueusement devant lui pour poser le plateau ou si cette inclinaison était due à son maintien, à ses épaules voûtées et à la courbe de son cou. Nicolas lui parlait du même ton qu'à ses enfants. Obinze l'avait entendu dire « Vous mettez tous la pagaille dans mon bureau. Filez d'ici tout de suite !» Elle avait dit « Oui, Nicolas. » Et elle avait fait sortir les enfants. « Oui, Nicolas ?» était sa réponse à presque tout ce qu'il disait. Parfois, dans le dos de Nicolas, elle croisait le regard d'Obinze et faisait une grimace, gonflait ses joues en deux petits ballons ou tirait la langue de côté. Cela rappelait à Obinze les mimiques outrancières des comédiens dans les films de Nollywood. « Je pense toujours à la façon dont Nicolas et toi vous vous comportiez, Antsuka, » dit Obinze un après-midi pendant qu'il l'aidait à découper un poulet. Sais-tu que nous baisions en public? Nous l'avons fait à l'Arts Theater, et même à l'époque de mécanique, un après-midi dans un coin tranquille du couloir. » Elle rit. Le mariage change bien des choses. Mais ce pays n'est pas facile. J'ai obtenu mes papiers parce que j'avais fini mes études ici. Et il a eu les siens il y a seulement 2 ans. Il a longtemps vécu dans l'angoisse, travaillant sous des noms d'emprunt. C'est quelque chose qui peut faire des trucs terribles dans ta tête. Et Zyoku, rien n'a été facile pour lui non plus. Il a un très bon job à présent, mais c'est un contrat à durée déterminée. Il ne sait jamais s'il sera renouvelé. Il a eu une proposition intéressante en Irlande. Tu sais que l'Irlande est en pleine expansion à présent, et les programmeurs informatiques y sont très demandés. Mais il n'a pas envie que nous nous installions là-bas. Pour les enfants, les écoles sont bien meilleures ici. Obinze choisit quelques flacons d'épices dans le buffet, assaisonna le poulet et mit la cocotte sur le feu. « Tu mets de la noix de muscade dans le poulet ?» demanda Odiugo. « Oui, pas toi ?»« Moi, qu'est-ce que j'en sais ? Celle qui t'épousera tirera le gros lot. Au fait, qu'est-ce qui vous est arrivé à Ifemelu et à toi ? Je l'aimais bien. » Elle est partie en Amérique. Ses yeux se sont ouverts et elle m'a oubliée. Odiugo rit. Le téléphone sonna. Chaque fois qu'il l'entendait, Obinze, qui espérait toujours recevoir un appel du bureau de placement, sentait un accès de panique lui serrer la poitrine et Odiugo disait « Calme-toi, le Z. Les choses vont s'arranger pour toi. Regarde mon ami Bose. Figure-toi qu'elle a fait une demande d'asile, a été rejetée, et a vécu un enfer avant de finalement obtenir ses papiers. Maintenant, elle est propriétaire de 2 pépinières et possède une maison de vacances en Espagne. Cela t'arrivera aussi, ne t'inquiète pas. Rapuba. » Il y avait une certaine vacuité dans ses paroles de réconfort, une façon machinale d'exprimer son soutien qui n'impliquait aucun effort concret pour l'aider. Il se demandait parfois, sans lui en vouloir, si elle souhaitait vraiment qu'il trouve du travail. Car alors il ne pourrait plus garder les enfants pendant qu'elle faisait un saut chez Tesco pour acheter du lait, ni préparer leur petit déjeuner tandis qu'elle leur faisait répéter leurs exercices avant de partir à l'école, Né au piano ou au violon, Na au violoncelle. Longtemps après, Obinze regretterait ces moments où il beurrait des toasts dans la pâle lumière du matin, où la musique se répandait à travers la maison, interrompue de temps en temps par la voix d'Odiugo, qui dispensait compliments ou critiques, disant « Bravo ! Essaye encore une fois !» ou « Tu joues comme un pied !» Plus tard, dans l'après-midi, après qu'elle fut revenue de l'école avec les enfants, Odiugo dit à Na « C'est votre oncle Obinze qui a fait cuire le poulet. » Merci d'aider maman, oncle. Mais je crois que je vais me passer du poulet. Il avait l'esprit espiègle de sa mère.
Écoute-moi ce garçon, dit Odjugo. Ton oncle est meilleur cuisinier que moi.
Na écarta les yeux. Ok, maman, si tu le dis. Est-ce que je peux regarder la télévision? Juste 10 minutes?
D'accord, 10 minutes.
C'était la demi-heure de repos après leurs devoirs et avant l'arrivée de leur professeur de français, et Odjugo préparait des sandwichs à la confiture, ôtant soigneusement la croûte du pain. Na alluma la télévision et tomba sur le show d'un musicien qui portait de grandes chaînes brillantes autour du cou.
Maman, j'ai bien réfléchi, dit Na. Je veux être rappeur.
Tu ne peux pas être rappeur, Na.
Mais c'est ce que je veux, maman.
Tu ne seras pas rappeur, chérie. Nous ne sommes pas venus à Londres pour que tu fasses du rap.
Elle se tourna vers Obinze, retenant un rire.
Tu vois un peu ce garçon?
Ne entra dans la cuisine, un Capri Sun à la main.
Maman, puis-je en avoir un, s'il te plaît?
Oui, Ne.
Et se tournant vers Obinze, elle répéta les paroles de sa fille avec un accent anglais exagéré.
Maman, puis-je en avoir un, s'il te plaît? Tu entends cet accent super chic?
Ha! Ma fille ira loin.
C'est pour ça que tout notre argent passe dans leur école, Brentwood.
Odjugo déposa un baiser sonore sur le front de sa fille et Obinze comprit, la voyant arranger machinalement une tresse sur la tête de Ne, qu'Odjugo était parfaitement satisfaite de son sort. Un autre baiser sur le front de Ne.
Comment te sens-tu, Oyineya? Demanda-t-elle.
Très bien, maman.
Demain, ne te contente pas de déchiffrer ce qu'il te demande. Continue plus loin, d'accord?
D'accord, maman.
Ne avait l'air grave d'une enfant décidée à faire plaisir aux adultes qui l'entouraient.
C'est demain qu'elle passe son épreuve de violon, tu sais, et elle a du mal à déchiffrer, dit Odjugo, comme si Obinze pouvait l'avoir oublié, comme s'il était possible de l'oublier alors qu'elle en parlait depuis des jours.
Le week-end précédent, il était allé avec elle et les enfants à une fête d'anniversaire dans une salle de location sonore, où des petits Indiens et des petits Nigérians couraient de tous côtés. Et Odjugo lui avait parlé à l'oreille de certains enfants, celui qui était bon en maths, mais ne savait pas écrire correctement, et celle qui était la grande rivale de Ne. Elle connaissait les résultats des tests récents de tous les enfants intelligents. Comme elle ne se souvenait pas des notes d'une petite Indienne, une amie proche de Ne, elle avait appelé sa fille pour le lui demander.
Odjugo, laisse-la jouer, avait dit Obinze.
Odjugo déposa un troisième baiser sur le front de Ne.
Mon trésor, il va falloir trouver une robe pour la fête.
Oui, maman, quelque chose de rouge. Non, Bordeaux.
Son amie donne une fête, une petite russe. Elles sont devenues amies parce qu'elles ont le même professeur de violon.
La première fois que j'ai rencontré la mère de cette fille, je crois qu'elle avait sur le dos quelque chose d'illégal, comme la fourrure d'un animal protégé. Et elle prétendait ne pas avoir l'accent russe, être plus britannique que les Britanniques.
Elle est gentille, maman, dit Ne.
Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas gentille, mon trésor.
Na avait augmenté le volume de la télévision.
Baisse le son, Na, dit Odjugo. Maman! Baisse-le immédiatement! Mais je n'entends rien, maman!
Il ne baissa pas le volume et elle n'insista pas. Elle se tourna vers Obinze et reprit la conversation.
À propos d'accent, dit Obinze, est-ce que Na s'en tirerait aussi bien s'il n'avait pas un accent étranger?
Que veux-tu dire?
Tu sais, dimanche dernier, quand Chika et Boze sont venus avec leurs enfants, je me suis dit qu'ici, les Nigérians passent beaucoup de choses à leurs enfants parce qu'ils ont un accent étranger. Les règles ne sont pas les mêmes.
Bah, ce n'est pas une question d'accent. C'est parce qu'au Nigeria, les gens inspirent de la crainte à leurs enfants au lieu de leur enseigner le respect. En ce qui nous concerne, nous ne voulons pas qu'ils aient peur de nous, mais cela ne veut pas dire que nous leur passons tout. Le garçon sait que je lui donnerai une claque s'il fait des bêtises. Une vraie gifle.
La dame fait trop de protestations, ce me semble.
Mais elle tiendra parole.
Odjugo sourit.
Tu sais que je n'ai pas lu un livre depuis des lustres? Pas le temps. Ma mère disait que tu deviendrais une critique littéraire de premier plan.
Oui, avant que le fils de son frère me mette enceinte.
Odjugo s'arrêta un instant sans cesser de sourire.
Maintenant, ce sont les enfants. Je veux que Na aille à la City of London School. Et ensuite, si Dieu le veut, à Marlborough ou Eton. Ne est déjà une star en classe. Et je sais qu'elle aura des bourses pour toutes les bonnes écoles. Tout tourne autour d'eux désormais.
Un jour, ils auront grandi, quitteront la maison et tu ne seras plus qu'une source d'embarras ou d'exaspération pour eux. Ils ne répondront plus à tes coups de téléphone ou resteront sans t'appeler pendant des semaines.
Dit Obinze. Et à peine eut-il prononcé ces paroles qu'il s'en mordit les lèvres. C'était mesquin. Ce n'était pas vraiment ce qu'il avait eu l'intention de dire.
Mais Odjugo n'en prit pas ombrage. Elle haussa les épaules et dit « Alors je prendrai ma valise et j'irai me poster devant leur maison. »
Il était étonné qu'elle ne regrette pas tout ce qu'elle aurait pu être. Était-ce un trait de caractère inhérent aux femmes? Ou avaient-elles appris à dissimuler leurs regrets personnels, à mettre entre parenthèses le cours de leur existence, à dédier leur vie aux seuls soins des enfants? Elle surfait sur le net et consultait les forums consacrés à l'enseignement, à la musique et aux écoles, et elle racontait à Obinze ce qu'elle avait découvert, comme si elle pensait vraiment que le reste du monde devait être aussi intéressé qu'elle par le fait que la musique améliorait les aptitudes en mathématiques d'un enfant de 9 ans. Ou bien elle passait des heures au téléphone à parler avec ses amis pour savoir quel était le meilleur professeur de violon et quel cours particulier n'était que de l'argent jeté par la fenêtre. Un jour, après être partie à la hâte accompagner Na à sa leçon de piano, elle appela Obinze et lui dit en riant
« Peux-tu croire que j'ai oublié de me laver les dents ?»
Elle revenait des réunions Weight Watchers en lui racontant combien elle avait perdu ou gagné de poids, lui offrant en riant une des barres chocolatées qu'elle avait cachée dans son sac. Puis elle s'inscrivit à un autre programme du même genre, assista à 2 réunions du matin et revint à la maison en lui disant
« Je n'y mettrai plus les pieds. Il te traite comme si tu avais un problème mental. » J'ai dit « Non, tout va bien, merci. Simplement, j'aime le goût de ce que je mange. » Et voilà que cette femme me toise et dit que je refoule un conflit interne. Foutaise! Ces blancs croient que tout le monde a les mêmes problèmes psychologiques qu'eux.
Elle avait doublé de volume depuis l'université, où elle s'habillait sans élégance particulière, mais avec un certain style. Des jeans retroussés au-dessus des chevilles, d'amples chemises découvrant une épaule. À présent, ses vêtements avaient seulement un aspect négligé. Ses jeans laissaient apparaître un pli de chair rebondi à la hauteur de la taille qui déformait ses t-shirts, comme si quelque chose d'étranger poussait en dessous. Parfois, ses amis passaient la voir, et elle restait assise à bavarder dans la cuisine avant de partir précipitamment chercher leurs enfants. Pendant ces semaines, à attendre que le téléphone sonne, Obinze en vint à reconnaître leur voix. Il les entendait distinctement depuis la toute petite chambre à l'étage où il lisait, allongé sur son lit.
« J'ai récemment fait la connaissance de cet homme, »
disait Chika.
« Il est gentil, oh, mais il vient du fin fond de la brousse. Il a passé sa jeunesse à Onitsha. Tu n'imagines pas son accent. Il dit « tche » à la place de « ce ». Il faut que j'aille au centre commercial. »
Elle rire.
« En tout cas, il m'a dit qu'il veut bien m'épouser et adopter Charles. Il veut bien ?» Comme s'il s'agissait d'une bonne œuvre. Vous imaginez? Mais ce n'est pas sa faute, c'est parce que nous sommes à Londres. C'est le genre d'homme que je ne regarderai même pas au Nigeria et avec qui je sortirai encore moins. Le problème, c'est qu'à Londres, on est tous logés à la même enseigne. Londres est une machine à niveler. Nous vivons tous à Londres et nous sommes censés être tous identiques. C'est absurde,
dit Bose.
Peut-être devrait-il se chercher une Jamaïcaine.
Dit Amara. Son mari l'avait quittée pour une Jamaïcaine, avec laquelle il s'était avéré qu'il avait un enfant caché de 4 ans, et elle s'arrangeait toujours pour amener la conversation sur les Jamaïcaines.
Ces femmes des Caraïbes nous prennent nos hommes, et nos hommes sont assez idiots pour les suivre. Et bientôt, elles ont un enfant, et elles ne cherchent pas à se marier, oh! Elles veulent seulement une pension alimentaire.
Elles passent leur temps à dépenser leur argent, se coiffer et se faire les ongles.
Oui,
approuvèrent Bose, Chika et Odjugo. Une approbation de routine, machinale. Le bien-être émotionnel d'Amara importait plus que ce qu'elle croyait en réalité. Le téléphone sonna. Odjugo répondit et revint en disant
« Cette femme qui vient d'appeler, c'est quelqu'un de vraiment spécial. Sa fille et Nez font partie du même orchestre. Je l'ai rencontrée quand Nez a passé son premier examen. C'est une noire, elle est arrivée dans sa Bentley, avec chauffeur et tout le tremblement. Elle m'a demandé où nous habitions, et quand je le lui ai dit, j'ai su tout de suite ce qui traversait son esprit. Comment quelqu'un qui habite l'Essex peut prétendre au National Children's Orchestra? Alors j'ai décidé de semer le trouble et je lui ai dit « Ma fille est à Brentwood. » Et vous auriez dû voir sa tête. Vous savez, les gens comme nous ne sont pas censés parler d'école privée ni de musique. Le mieux que nous puissions désirer est une bonne école publique. J'ai regardé la femme et ri en moi-même. Puis elle a commencé à me faire remarquer que l'école de musique pour les enfants coûtait très cher. Elle n'a cessé de dire que c'était hors de prix, comme si elle avait vu mon compte en banque vide. Vous vous rendez compte, oh? C'est une de ces noires qui veut être la seule noire dans la pièce. Toute autre noire est pour elle une menace immédiate. Elle vient de m'appeler à l'instant pour me parler d'une fille de 11 ans qui a obtenu une mention bien et n'a pas été admise au National Children's Orchestra. Pourquoi donc m'appelle-t-elle juste pour me raconter cette histoire d'échec? Une ennemie du progrès, dit Bose.
Elle est jamaïcaine?
Demanda Amara.
C'est une Britannique, je ne sais pas d'où est originaire sa famille.
Probablement de la Jamaïque, conclut Amara.